Pour audiocité.net, Une nuit de Cléopâtre de Théophile Gautier, publié en 1838, lu par Alain Bernard, illustration musicale, Nocturne de Chopin, licence libre, Muse Open. Grand 1. Il y a, au moment où nous écrivons cette ligne, 1900 ans environ, qu'une cange magnifiquement dorée et peinte descendait le Nil avec toute la rapidité que pouvaient lui donner 50 rames longues et plates, rampant sur l'eau et gratignées, comme les pattes d'un scarabée gigantesque. Cette cange était étroite, de forme allongée, relevée par les deux bouts en forme de corne de lune naissante, svelte de proportions et merveilleusement taillée pour la marche. Une tête de bélier, surmontée d'une boule d'or, armait la pointe de la proue, et montrer que l'embarcation appartenait à une personne de race royale. Au milieu de la barque s'élevait une cabine à toit plat, une espèce de naos ou tente d'honneur, coloriée et dorée, avec une moulure à palmettes et quatre petites fenêtres carrées. Deux chambres, également couvertes d'hiéroglyphes, occupaient les extrémités du croissant. L'une d'elles, plus vaste que l'autre, avait un étage juxtaposé de moindre hauteur, comme les châteaux gaillards de ces bizarres galères du XVIe siècle dessinées par Delia Bella. La plus petite, qui servait de logement au pilote, se terminait en fronton triangulaire. Le gouvernail était fait de deux immenses avirons ajustés sur des pieux bariolés et s'allongeant dans l'eau derrière la barque comme les pieds palmés d'un cygne. Des têtes coiffées du pschent et portant au menton la corne allégorique, était sculptée à la poignée de ces grandes rames que faisait manœuvrer le pilote, debout, sur le toit de la cabine. C'était un homme basané, fauve comme du bronze neuf, avec des luisants bleuâtres et miroitants, l'œil relevé par les coins, les cheveux très noirs et tressés en cordelettes, la bouche épanouie, les pommettes saillantes, l'oreille détachée du crâne, le type égyptien dans toute sa pureté. Un pagne étroit, bridant sur les cuisses ses cinq ou six tours de verroterie et d'amulettes, composait tout son costume. Il paraissait le seul habitant de la cange, car les rameurs, penchés sur leurs avirons et cachés par le plat-bord, ne se faisaient deviner que par le mouvement symétrique des rames ouvertes en côte d'éventail à chaque flanc de la barque et retombant dans le fleuve après un léger temps d'arrêt. Aucun souffle d'air ne faisait trembler l'atmosphère, et la grande voile triangulaire de la cange, assujettie et ficelée avec une corde de soie autour du mât abattu, montrait que l'on avait renoncé à tout espoir de voir le vent s'élever. Le soleil du midi décochait ses flèches de plomb, les vases cendrés des rives du fleuve lançaient de flamboyantes réverbérations. Une lumière crue, éclatante et poussiéreuse à force d'intensité, ruisselait en torrents de flammes. L'azur du ciel blanchissait de chaleur comme un métal à la fournaise. Une brume ardente et rousse fumait à l'horizon incendié, pas un nuage de tranché sur ce ciel invariable et morne comme l'éternité. L'eau du Nil, terne et mate, semblait s'endormir dans son cours et s'étaler en nappes d'étain fondu. Nulle haleine ne ridait sa surface et n'inclinait sur leurs tiges les calices de lotus, aussi roides que s'ils eussent été sculptés. À peine si de loin en loin le seau d'un béchir ou d'un fahaka, gonflant son ventre, y faisait miroiter une écaille d'argent, et les avirons de la cange semblaient avoir peine à déchirer la pellicule fuligineuse de cette eau figée. Les rives étaient désertes. Une tristesse immense et solennelle pesait sur cette terre, qui ne fut jamais qu'un grand tombeau, et dont les vivants semblent pas avoir eu d'autre occupation que d'embaumer les morts. Tristesse aride, sèche comme la pierre ponce, sans mélancolie, sans rêverie, n'ayant point de nuages gris de perles à suivre à l'horizon, pas de source secrète où baigner ses pieds poudreux. Tristesse du sphinx ennuyé de regarder perpétuellement le désert, et qui ne peut se détacher du socle de granit où il aiguise ses griffes depuis 20 siècles. Le silence était si profond qu'on eût dit que le monde fût devenu muet, ou que l'air eût perdu la faculté de conduire le son. Le seul bruit qu'on entendit, c'était le chuchotement et les rires étouffés des crocodiles pâmés de chaleur qui se vautraient dans les joncs du fleuve, ou bien quelque ibis qui, fatigué de se tenir debout, une patte repliée sous le ventre et le cou entre les épaules, quittait sa pose immobile et, fouettant brusquement l'air bleu de ses ailes blanches, allait se percher sur un obélisque ou sur un palmier. La cange filait comme la flèche sur l'eau du fleuve, laissant derrière elle un sillage argenté qui se refermait bientôt, et quelques globules écumeux venant crever à la surface témoignaient seuls du passage de la barque déjà hors de vue. Les berges du fleuve, couleur d'ocre et de saumon, se déroulaient rapidement comme des bandelettes de papyrus entre le double azur du ciel et de l'eau, si semblables de ton que la mince langue de terre qui les séparait semblait une chaussée jetée sur un immense lac et qu'il eût été difficile de décider si le Nil réfléchissait le ciel ou si le ciel réfléchissait le Nil. Le spectacle changeait à chaque instant. Tantôt, c'était de gigantesques propylées qui venaient mirer au fleuve leurs murailles en talus, plaquées de larges panneaux de figures bizarres, des pylônes aux chapiteaux évasés, des rampes côtoyées de grands sphinx accroupis, coiffés du bonnet à barbe cannelée et croisant sous leurs mamelles aiguës leurs pattes de basalte noir, des palais démesurés faisant saillir sur l'horizon les lignes horizontales et sévères de leur entablement, où le globe emblématique ouvrait ses ailes mystérieuses comme un aigle à l'envergure démesurée. Des temples aux colonnes énormes, grosses comme des tours, où se détachaient sur un fond d'éclatante blancheur des processions de figures hiéroglyphiques. Toutes les prodigiosités de cette architecture de titans, tantôt des paysages d'une aridité désolante, des collines formées par de petits éclats de pierre provenant des fouilles et des constructions, miettes de cette gigantesque débauche de granit qui dura plus de 30 siècles, des montagnes exfoliées de chaleur, déchiquetées, zébrées de rayures noires, semblables aux cautérisations d'un incendie, des tertres bossus et difformes, accroupis comme le cryocéphale des tombeaux et découpant au bord du ciel leur attitude contrefaite, des marnes verdâtres, des ocres roux, des tufs d'un blanc farineux et de temps à autre quelque escarpement de marbre couleur rose sèche où bâillaient les bouches noires des carrières. Cette aridité n'était tempérée par rien. Aucune oasis de feuillage ne rafraîchissait le regard. Le vert semblait une couleur inconnue dans cette nature. Seulement, de loin en loin, un maigre palmier s'épanouissait à l'horizon comme un crabe végétal. Un opale épineux brandissait ses feuilles acérées comme des glaives de bronze. Un cartame, trouvant un peu d'humidité à l'ombre d'un tronçon de colonne, piquait d'un point rouge l'uniformité générale. Après ce coup d'œil rapide sur l'aspect du paysage, revenons à la cange aux 50 rameurs et, sans nous faire annoncer, entrons de plein pied dans la naos d'honneur. L'intérieur était peint en blanc, avec des arabesques vertes, des filets de vermillon et des fleurs d'or de forme fantastique. Une natte de jonc d'une finesse extrême recouvrait le plancher. Au fond, s'élevait un petit lit à pied de griffon, avec un dossier garni comme un canapé ou une causeuse moderne, un escabeau à 4 marches pour y monter, et, recherche assez singulière dans nos idées confortables, une espèce d'hémicycle en bois de cèdre monté sur un pied, destiné à embrasser le contour de la nuque et à soutenir la tête de la personne couchée. Sur cet étrange oreiller reposait une tête bien charmante, dont un regard fit perdre la moitié du monde, une tête adorée et divine, la femme la plus complète qui ait jamais existé, la plus femme et la plus reine, un type admirable, auquel les poètes n'ont pu rien ajouter, et que les songeurs trouvent toujours au bout de leurs rêves. Il n'est pas besoin de nommer Cléopâtre. Auprès d'elle, Charmion, son esclave favorite, balançait un large éventail de plumes d'ibis. Une jeune fille arrosait d'une pluie d'eau de senteur les petites jalousies de roseaux qui garnissaient les fenêtres de la naos, pour que l'air n'y arrivât qu'imprégné de fraîcheur et de parfum. Près du lit de repos, dans un vase d'albâtre rubané, au goulot grêle, à la tournure effilée svelte, rappelant vaguement un profil de héron, trempait un bouquet de fleurs de lotus, les unes d'un bleu céleste, les autres d'un rosé tendre comme le bout des doigts d'Isis, la grande déesse. Cléopâtre, ce jour-là, par caprice ou par politique, n'était pas habillée à la grecque. Elle venait d'assister à une panégyrie, et elle retournait à son palais d'été dans la cange avec le costume égyptien qu'elle portait à la fête. Nos lectrices seront peut-être curieuses de savoir comment la reine Cléopâtre était habillée en revenant de la Mamicie d'Hermontis, où l'on adore la triade du dieu Mandou, de la déesse Rito et de leur fils Arphré. C'est une satisfaction que nous pouvons leur donner. La reine Cléopâtre avait pour coiffure une espèce de casque d'or très léger, formé par le corps et les ailes de l'épervier sacré. Les ailes, rabattues en éventail de chaque côté de la tête, couvraient les tempes, s'allongeaient presque sur le cou et dégageaient, par une petite échancrure, une oreille plus rosée et plus délicatement enroulée que la coquille d'où sortit Vénus, que les Égyptiens nommèrent à tort. La queue de l'oiseau occupait la place où sont posés les chignons de nos femmes. Son corps, couvert de plumes imbriquées et peintes de différents émaux, enveloppait le sommet du crâne, et son cou, gracieusement replié vers le front, composait avec la tête une manière de corne étincelante de pierreries. Un cimier symbolique en forme de tour complétait cette coiffure élégante, quoique bizarre. Des cheveux noirs, comme ceux d'une nuit sans étoiles, s'échappaient de ce casque et filaient en longues tresses sur de blondes épaules, dont une collerette ou hausse col, ornée de plusieurs rangs de serpentines, d'azérodraques et de chrysobérils, ne laissait, hélas, apercevoir que le commencement. Une robe de lin à côtes diagonales, un brouillard d'étoffe, de l'air tramé, ventus textilis, comme dit Pétrone, ondulait en blanche vapeur autour d'un beau corps dont elle estompait mollement les contours. Cette robe avait des demi-manches, juste sur l'épaule, mais évasées vers le coude comme nos manches à sabots, et permettait de voir un bras admirable et une main parfaite, le bras serré par 6 cercles d'or et la main ornée d'une bague représentant un scarabée. Une ceinture, dont les bouts noués retombaient par devant, marquait la taille de cette tunique flottante et libre. Un mantelet garni de franges achevait la parure, et si quelques mots barbares n'effarouchent point des oreilles parisiennes, nous ajouterons que cette robe se nommait Chantilly et le mantelet Calasiris. Pour dernier détail, disons que la reine Cléopâtre portait de légères sandales fort minces, recourbées en pointe, et rattachées sur le cou de pied comme les souliers à la poulaine des châtelaines du Moyen-Âge. La reine Cléopâtre n'avait cependant pas l'air de satisfaction d'une femme sûre d'être parfaitement belle et parfaitement parée. Elle se retournait et s'agitait sur son petit lit, et ses mouvements assez brusques dérangeaient à chaque instant les plis de son conopéum de gaz que Charmion rajustait avec une patience inépuisable, sans cesser de balancer son éventail. « L'on étouffe dans cette chambre, » dit Cléopâtre. Quand même, Phtah, dieu du feu, aurait établi ses forges ici, il ne ferait pas plus chaud. L'air est comme une fournaise. » Et elle passa sur ses lèvres le bout de sa petite langue, puis étendit la main comme un malade qui cherche une coupe absente. Charmion, toujours attentif, frappa des mains. Un esclave noir, vêtu d'un tonnelet plissé, comme la jupe des Albanais, et d'une peau de panthère jetée sur l'épaule, entra avec la rapidité d'une apparition, tenant en équilibre, sur la main gauche, un plateau chargé de tasses et de tranches de pastèques, et dans la droite, un vase long, muni d'un goulot, comme une théière. L'esclave remplit une découpe, en versant de haut avec une dextérité merveilleuse, et la plaça devant la reine. Cléopâtre toucha le breuvage du bout des lèvres, le reposa à côté d'elle, et tournant vers Charmion, ses beaux yeux noirs, onctueux et lustrés, par une vive étincelle de lumière. « Oh, Charmion, » dit-elle, « je m'ennuie. » Charmion, pressentant une confidence, fit une mine d'assentiment douloureux et se rapprocha de sa maîtresse. « Je m'ennuie horriblement, » reprit Cléopâtre, en laissant pendre ses bras comme découragé et vaincu. « Cette Égypte m'anéantit et m'écrase. Ce ciel avec son azur implacable est plus triste que la nuit profonde de l'Erebe. Jamais un nuage, jamais une ombre, et toujours ce soleil rouge, sanglant, qui vous regarde comme l'œil d'un cyclope. Tiens, Charmion, je donnerais une perle pour une goutte de pluie. » De la prunelle enflammée de ce ciel de bronze, il n'est pas encore tombé une seule larme sur la désolation de cette terre. C'est un grand couvercle de tombeaux, un dôme de nécropole, un ciel mort et desséché comme les momies qu'il recouvre. Il pèse sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Il me gêne et m'inquiète. Il me semble que je ne pourrais me lever toute droite sans m'y heurter le front. Et puis, ce pays est vraiment un pays effrayant. Tout y est sombre, énigmatique, incompréhensible. L'imagination n'y produit que des chimères monstrueuses et des mouvements démesurés. Cette architecture et cette art me font peur. ces colosses que leurs jambes engagées dans la pierre condamnent à rester éternellement assis, les mains sur les genoux, me fatiguent de leur immobilité stupide. Ils obsèdent mes yeux et mon horizon. Quand viendra donc le géant qui doit les prendre par la main et les relever de leur faction de 20 siècles? Le granit lui-même se lasse à la fin. Quel maître attend-il donc pour quitter la montagne qui leur sert de siège et se lever en signe de respect? De quel troupeau invisible ces grands sphinx accroupis comme des chiens qui guettent sont-ils les gardiens pour ne fermer jamais la paupière et tenir toujours la griffe en arrêt? Qu'ont-ils donc à fixer si opiniâtrement leurs yeux de pierre sur l'éternité et l'infini? Quels secrets étranges leurs lèvres serrées retiennent-elles dans leur poitrine? À droite, à gauche, de quelque côté que l'on se tourne, ce ne sont que des monstres affreux à voir, des chiens à tête d'homme, des hommes à tête de chien, des chimères nées d'accouplements hideux dans la profondeur ténébreuse des syringes, des Anubis, des Typhons, des Osiris, des éperviers aux yeux jaunes qui semblent vous traverser de leurs regards inquisiteurs et voir au-delà de vous des choses que l'on ne peut redire. Une famille d'animaux et de dieux horribles aux ailes écaillées, aux becs crochus, aux griffes tranchantes, toujours prêts à vous dévorer, à vous saisir si vous franchissez le seuil du temple et si vous levez le coin du voile. Sur les murs, sur les colonnes, sur les plafonds, sur les planchers, sur les palais, sur les temples, dans les couloirs et les puits les plus profonds des nécropoles, jusqu'aux entrailles de la terre où la lumière n'arrive pas, où les flambeaux s'éteignent faute d'air, et partout et toujours d'interminables hiéroglyphes sculptés et peints, racontant en langage inintelligible des choses que l'on ne sait plus et qui appartiennent sans doute à des créations disparues. Prodigieux travaux enfouis où tout un peuple s'est usé à écrire l'épitaphe d'un roi. Du mystère et du granit, voilà l'Égypte. Beau pays pour une jeune femme, une jeune reine. L'on ne voit que symboles menaçants et funèbres, des pédoums, des taouds, des globes allégoriques, des serpents enroulés, des balances où l'on pèse les âmes. L'inconnu, la mort, le néant. Pour toute végétation, des stèles bariolées de caractères bizarres. Pour allées d'arbres, des avenues d'obélisques de granit. Pour sol, d'immenses pavés de granit dont chaque montagne ne peut fournir qu'une seule dalle. Pour ciel, des plafonds de granit. L'éternité palpable, un amer perpétuel sarcasme contre la fragilité et la brièveté de la vie. Des escaliers faits pour des enjambées de titans que le pied humain ne saurait franchir et qu'il faut monter avec des échelles. Des colonnes que sans bras ne pourraient entourer, des labyrinthes où l'on marcherait un an sans trouver l'issue. Le vertige de l'énormité, l'ivresse gigantesque, l'effort désordonné de l'orgueil qui veut graver à tout prix son nom sur la surface du monde. Et puis, Charmion, je te le dis, j'ai une pensée qui me fait peur. Dans les autres contrées de la terre, on brûle les cadavres, et leurs cendres bientôt se confondent avec le sol. Ici, on dirait que les vivants n'ont autre occupation que de conserver les morts. Des baumes puissants les arrachent à la destruction. Ils gardent tous leur forme et leur aspect. L'âme évaporée, la dépouille reste. Sous ce peuple, il y a 20 peuples. Chaque ville a les pieds sur 20 étages de nécropole. Chaque génération qui s'en va fait une population de momies à une cité ténébreuse. Sous le père, vous trouvez le grand-père et l'aïeul dans leurs boîtes peintes et dorées, tels qu'ils étaient pendant la vie, et vous fouilleriez toujours que vous en trouveriez toujours. Quand je songe à ces multitudes emmaillotées de bandelettes, à ces myriades de spectres desséchés qui remplissent les puits funèbres, et qui sont là, depuis 2000 ans, face à face, dans leur silence que rien ne vient troubler, pas même le bruit que fait en rampant le verre du sépulcre, et qu'on trouvera intact, après 2 autres 1000 ans, avec leurs chats, leurs crocodiles, leurs ibis, tout ce qui a vécu en même temps qu'eux, il me prend des terreurs, et je me sens courir des frissons sur la peau. Que se disent-ils, puisqu'ils ont encore des lèvres, et que leur âme, si la fantaisie lui prenait de revenir, trouverait leur corps dans l'état où elle l'a quitté? L'Égypte est vraiment un royaume sinistre, et bien peu fait pour moi, la rieuse et la folle. Tout y renferme une momie. C'est le cœur et le noyau de toute chose. Après 1000 détours, c'est là que vous aboutissez. Les pyramides cachent un sarcophage. Néant et folie que tout cela. éventrez le ciel avec de gigantesques triangles de pierre. Vous n'allongerez pas votre cadavre d'un pouce. Comment se réjouir et vivre sur une terre pareille, où l'on ne respire pour parfum que l'odeur âcre du naphte et du bitume qui bout dans les chaudières des embaumeurs, où le plancher de votre chambre sonne le creux parce que les corridors des hypogées et des puits mortuaires s'étendent jusque sous votre alcôve. Être la reine des momies, avoir pour causer ces statues roides et contraintes, c'est gai. Encore, si, pour tempérer cette tristesse, j'avais quelque passion au cœur, un intérêt à la vie, si j'aimais quelqu'un ou quelque chose, si j'étais aimé, mais je ne le suis point. Voilà pourquoi je m'ennuie, Charmion. Avec l'amour, cette Égypte aride et renfrognée me paraîtrait plus charmante que la Grèce, avec ses dieux d'ivoire, ses temples de marbre blanc, ses bois de laurier rose et ses fontaines d'eau vive. Je ne songerai pas à la physionomie baroque d'Anubis et aux épouvantements des villes souterraines. Charmion sourit d'un air incrédule. Ce ne doit pas être là un sujet de chagrin pour vous, car chacun de vos regards perce les cœurs comme les flèches d'or d'Héros lui-même. Une reine, reprit Cléopâtre, peut-elle savoir si c'est le diadème ou le front que l'on aime en elle? Les rayons de sa couronne sidérale éblouissent les yeux et le cœur. Descendu des hauteurs du trône, aurais-je la célébrité et la vogue de Bacchide ou d'Arkenassa, de la première courtisane venue d'Athènes ou de Milet? Une reine, c'est quelque chose de si loin des hommes, de si élevé, de si séparé, de si impossible. Quelle présomption peut se flatter de réussir dans une pareille entreprise? Ce n'est plus une femme, c'est une figure auguste et sacrée, qui n'a point de sexe, et que l'on adore à genoux sans l'aimer, comme la statue d'une déesse. Qui a jamais été sérieusement épris d'air ou bras de neige, de palace aux yeux verts de mer? Qui a jamais essayé de baiser les pieds d'argent de Thétis et les doigts de rosée de l'aurore? Quel amant des beautés divines a pris des ailes pour voler vers les palais d'or du ciel? Le respect et la terreur glacent les âmes en notre présence, et pour être aimé de nos pareils, il faudrait descendre dans les nécropoles dont je parlais tout à l'heure. Quoiqu'elle n'élevât aucune objection contre les raisonnements de sa maîtresse, un vague sourire errant sur les lèvres de l'esclave grec faisait voir qu'elle ne croyait pas beaucoup à cette inviolabilité de la personne royale. Ah, continua Cléopâtre, je voudrais qu'il m'arrivât quelque chose. Une aventure étrange, inattendue. Le chant des poètes, la danse des esclaves syriennes, les festins couronnés de rosée prolongés jusqu'au jour, les courses nocturnes, les chiens de Laconie, les lions privés, les nains bossus, les membres de la confrérie des inimitables, les combats du cirque, les parures nouvelles, les robes de byssus, les unions de perles, les parfums d'Asie, les recherches les plus exquises, les somptuosités les plus folles. Tout m'est indifférent, tout m'est insupportable. On voit bien, dit tout bas Charmion, que la reine n'a pas eu d'amant et n'a fait tuer personne depuis un mois. Fatigué d'une aussi longue tirade, Cléopâtre prit encore une fois la coupe posée à côté d'elle, y trempa ses lèvres et, mettant sa tête sous son bras avec un mouvement de colombe, s'arrangea de son mieux pour dormir. Charmion lui défit ses sandales
et se mit à lui chatouiller doucement la plante des pieds.
Avec la barbe d'une plume de paon. Le sommeil ne tarda pas à jeter sa poudre d'or sur les beaux yeux de la sœur de Ptolémée. Maintenant que Cléopâtre dort, remontons sur le pont de la Cange et jouissons de l'admirable spectacle du soleil couchant. Une large bande violette, fortement chauffée de ton roux vers l'occident, occupe toute la partie inférieure du ciel. Rencontrant les zones d'azur, la teinte violette se fond en lilas clair et se noie dans le bleu par une demi-teinte rosée. Du côté où le soleil, rouge comme un bouclier tombé des fournaises de Vulcain, jette ses ardents reflets, la nuance tourne au citron pâle et produit des teintes pareilles à celles des turquoises. L'eau, frisée par un rayon oblique à l'éclat mat d'une glace vue du côté du thym ou d'une lame damasquinée, les sinuosités de la rive, les gens et tous les accidents du bord s'y découpent en traits fermes et noirs qui en font vivement ressortir la réverbération blanchâtre. À la faveur de cette clarté crépusculaire, vous apercevrez là-bas comme un grain des poussières, tombée sur du vif argent. Un petit point brun qui tremble dans un réseau de filets lumineux. Est-ce une sarcelle qui plonge? Une tortue qui se laisse aller la dérive? Un crocodile levant pour respirer l'air moins brûlant du soir, le bout de son rostre squameux? Le vent d'un hippopotame qui s'épanouit à fleur d'eau? Ou bien encore quelques rochers laissés à découvert par la décroissance du fleuve? Car le vieil Opimou, père des eaux, a bien besoin de remplir son urne d'ari au puits du solstice dans les montagnes de la lune. Ce n'est rien de tout cela. Par les morceaux d'Osiris, si heureusement recousus, c'est un homme qui paraît marcher, patiner sur l'eau. On peut voir maintenant la nacelle qui le soutient, une vraie coquille de noix, un poisson creusé, trois bandes d'écorce ajustées, une pour le fond et deux pour les plats-bords, le tout solidement relié aux deux pointes avec une corde engluée de bitume. Un homme se tient debout, un pied sur chaque bord de cette frêle machine, qu'il dirige avec un seul aviron, qui sert en même temps de gouvernail. Et quoique la cange royale file rapidement sous l'effort de 50 rameurs, la petite barque noire gagne visiblement sur elle. Cléopâtre désirait un incident étrange, quelque chose d'inattendu. Cette petite nacelle effilée, aux allures mystérieuses, nous a tout l'air de porter, sinon une aventure, du moins un aventurier. Peut-être contient-elle le héros de notre histoire? La chose n'est pas impossible. C'était en tout cas un beau jeune homme de 20 ans, avec des cheveux si noirs qu'ils paraissaient bleus, une peau blonde comme de l'or, et de proportions si parfaites qu'on eût dit un bronze de Lysippe. Bien qu'il ramât depuis longtemps, il ne trahissait aucune fatigue, et il n'avait pas sur le front une seule perle de sueur. Le soleil plongeait sous l'horizon, et sur son disque échancré se dessinait la silhouette brune d'une ville lointaine que l'œil n'aurait pu discerner sans cet accident de lumière. Il s'éteignit bientôt, tout à fait, et les étoiles, belles de nuit du ciel, ouvrirent leur calice d'or dans l'azur du firmament. La cange royale, suivie de près par la petite nacelle, s'arrêta près d'un escalier de marbre noir dont chaque marche supportait un de ces sphinx haïs de Cléopâtre. C'était le débarcadère du palais d'été. Cléopâtre, appuyé sur Charmion, passa rapidement, comme une vision étincelante, entre une double haie d'esclaves portant des fanaux. Le jeune homme prit au fond de la barque une grande peau de lion, la jeta sur ses épaules, sauta légèrement à terre, tira la nacelle sur la berge et se dirigea vers le palais. Qu'est-ce que ce jeune homme qui, debout sur un morceau d'écorce, se permet de suivre la cange royale et qui peut lutter de vitesse contre 50 rameurs du pays de Couche, nu jusqu'à la ceinture, et frotté d'huile de palmier? Quel intérêt le pousse et le fait agir? Voilà ce que nous sommes obligés de savoir à notre qualité de poète, doué du don d'intuition, et pour qui tous les hommes, et même toutes les femmes, ce qui est plus difficile, doivent avoir aux côtés la fenêtre que réclamait Momus. Il n'est peut-être pas très aisé de retrouver ce que pensait, il y a tantôt 2000 ans, un jeune homme de la terre de Kémée, qui suivait la barque de Cléopâtre, reine et déesse et vergette, revenant de la même Mermétie d'Hermontis. Nous essaierons cependant. Meïamoun, fils de Mansupoche, était un jeune homme d'un caractère étrange. Rien de ce qui touche le commun des mortels ne faisait impression sur lui. Il semblait d'une race plus haute, et l'on eût dit le produit de quelque adultère divin. Son regard avait l'éclat et la fixité d'un regard d'épervier, et la majesté sereine siégeait sur son front comme sur un piédestal de marbre. Un noble dédain arquait sa lèvre supérieure et gonflait ses narines comme celles d'un cheval fougueux. Quoiqu'il eût presque la grâce délicate d'une jeune fille, et que Dionysus, le dieu efféminé, n'eût pas une poitrine plus ronde et plus polie, il cachait sous cette molle apparence des nerfs d'acier et une force herculéenne. Singulier privilège de certaines natures antiques de réunir la beauté de la femme à la force de l'homme. Quant à son teint, nous sommes obligés d'avouer qu'il était fauve comme une orange, couleur contraire à l'idée blanche et rosée que nous avons de la beauté. Ce qui ne l'empêchait pas d'être un fort charmant jeune homme, très recherché par toutes sortes de femmes jeunes, rouges, cuivrées, bistrées, dorées, et même par plus d'une blanche grecque. D'après ceci, n'allez pas croire que Meiamoun fut un homme à bonne fortune. Les cendres du vieux Priam, les neiges d'Hippolyte lui-même, n'étaient pas plus insensibles et plus froides. Le jeune néophyte, en tunique blanche, qui se prépare à l'initiation des mystères d'Isis, ne mène pas une vie plus chaste. La jeune fille qui transite à l'ombre glaciale de sa mère n'a pas cette pureté craintive. Les plaisirs de Meiamoun, pour un jeune homme de si farouche approche, était cependant d'une singulière nature. Il partait tranquillement le matin avec son petit bouclier de cuir d'hippopotame, son harpé ou sabre à lame courbe, son arc triangulaire et son carquois en peau de serpent, rempli de flèches barbelées. Puis il s'enfonçait dans le désert et faisait galoper sa cavale aux jambes sèches, à la tête étroite, à la crinière échevelée, jusqu'à ce qu'il trouvât une trace de lionne. Cela le divertissait beaucoup d'aller prendre les petits lionceaux sous le ventre de leur mère. En toute chose, il n'aimait que le périlleux ou l'impossible. Il se plaisait fort à marcher dans des sentiers impraticables, à nager dans une eau furieuse, et il eut choisi pour se baigner dans le Nil précisément l'endroit des cataractes. L'abîme l'appelait. Tel était Meiamoun, fils de Mandouche Poche. Depuis quelque temps, son humeur était devenue encore plus sauvage. Il s'enfonçait des mois entiers dans l'océan de sable et ne reparaissait qu'à de rares intervalles. Sa mère inquiète se penchait vainement du haut de sa terrasse et interrogeait le chemin d'un œil infatigable. Après une longue attente, un petit nuage de poussière tourbillonnait à l'horizon. Bientôt, le nuage crevait et laissait voir Meiamoun, couvert de poussière sur sa cavale maigre comme une louve, l'œil rouge et sanglant, la narine frémissante, avec des cicatrices au flanc, cicatrices qui n'étaient pas des marques d'éperons. Après avoir pendu dans sa chambre quelques peaux d'hyène ou de lion, il repartait. Et cependant, personne n'eût pu être plus heureux que Meiamoun. Il était aimé de Nephté, la fille du prince Aphomoutis, la plus belle personne du nom d'Arsinoïte. Il fallait être Meiamoun pour ne pas voir que Nephté avait des yeux charmants, relevés par les coins, avec une indéfinissable expression de volupté, une bouche où scintillait un rouge sourire, des dents blanches et limpides, des bras d'une rondeur exquise, et des pieds plus parfaits que les pieds de jaspe de la statue d'Isis. Assurément, il n'y avait pas dans toute l'Égypte une main plus petite et des cheveux plus longs. Les charmes de Nephté n'eussent été effacés que par ceux de Cléopâtre. Mais qui pourrait songer à aimer Cléopâtre? Ixion, qui fut amoureux de Junon, ne serra dans ses bras qu'une nuée, et il tourne éternellement sa roue aux enfers. C'était Cléopâtre qu'aimait Meiamoun. Il avait d'abord essayé de dompter cette passion folle. Il avait lutté corps à corps avec elle, mais on n'étouffe pas l'amour comme on étouffe un lion. Et les plus vigoureux athlètes ne sauraient rien y faire. La flèche était restée dans la plaie, et il la traînait partout avec lui. L'image de Cléopâtre, radieuse et splendide, sous son diadème à pointe d'or, seule debout dans sa pourpre impériale, au milieu d'un peuple agenouillé, rayonnait dans sa veille et dans son rêve. Comme l'imprudent qui a regardé le soleil et qui voit toujours une tache insaisissable voltiger devant lui. Meiamoun voyait toujours Cléopâtre. Les aigles peuvent contempler le soleil sans être éblouis. Mais quelle prunelle de diamant pourrait se fixer impunément sur une belle femme, sur une belle reine? Sa vie était d'errer autour des demeures royales pour respirer le même air que Cléopâtre, pour baiser sur le sable, bonheur, hélas, bien rare, l'empreinte à demi effacée de son pied. Il suivait les fêtes sacrées et les panégyries, tâchant de saisir un rayon de ses yeux, de dérober au passage un des mille aspects de sa beauté. Quelquefois la honte le prenait de cette existence insensée. Il se livrait à la chasse avec un redoublement de furie et tâchait de mater par la fatigue l'ardeur de son sang et la fougue de ses désirs. Il était allé à la panégyrie d'Hermontis et, dans le vague espoir de revoir la reine un instant, lorsqu'elle débarquerait au palais d'été, il avait suivi la cange dans sa nacelle, sans s'inquiéter des âcres morsures du soleil, par une chaleur à faire fondre en sueur de lave les sphinx haletants sur leurs piédestaux rougis. Et puis, il comprenait qu'il touchait à un moment suprême, que sa vie allait se décider, et qu'il ne pouvait mourir avec son secret dans sa poitrine. C'est une étrange situation que d'aimer une reine. C'est comme si l'on aimait une étoile. Encore, l'étoile vient-elle chaque nuit briller à sa place dans le ciel? C'est une espèce de rendez-vous mystérieux. Vous la retrouvez, vous la voyez. Elle ne s'offense pas de vos regards. Oh misère! Être pauvre, inconnu, obscur, assis tout bas de l'échelle, et se sentir le cœur plein d'amour pour quelque chose de solennel, d'étincelant et de splendide, pour une femme dont la dernière servante ne voudrait pas de vous. Avoir l'œil fatalement fixé sur quelqu'un qui ne vous voit point, qui ne vous verra jamais, pour qui vous n'êtes qu'un flot de la foule pareil aux autres, et qui vous rencontrerait 100 fois sans vous reconnaître. N'avoir, si l'occasion de parler se présente, aucune raison à donner d'une si folle audace, ni talent de poète, ni grand génie, ni qualité surhumaine, rien que de l'amour. Et en échange de la beauté, de la noblesse, de la puissance, de toutes les splendeurs qu'on rêve, n'apporter que de la passion, ou sa jeunesse. Chose rare. Ces idées accablaient Meyamoun. Couché à plat ventre sur le sable, le menton dans ses mains, il se laissait emporter, soulevé par le flot d'une intarissable rêverie. Il ébauchait 1000 projets, les plus insensés les uns que les autres. Il sentait bien qu'il tendait à un but impossible, mais il n'avait pas le courage d'y renoncer franchement, et la perfide espérance venait chuchoter à son oreille quelques menteuses promesses. « Hathor, puissante déesse, disait-il à voix basse, que t'ai-je fait pour me rendre si malheureux? Te venges-tu du dédain que j'ai eu pour Nephté, la fille du prêtre Aphomoutis? M'en veux-tu d'avoir repoussé Lamia, l'étaïre d'Athènes, ou Flora, la courtisane romaine? Est-ce ma faute à moi si mon cœur n'est sensible qu'à la seule beauté de Cléopâtre, ta rivale? Pourquoi as-tu enfoncé dans mon âme la flèche empoisonnée de l'amour impossible? Quels sacrifices et quelles offrandes demandes-tu? Faut-il t'élever une chapelle de marbre rosé de Sienne, avec des colonnes à chapiteaux dorés, un plafond d'une seule pièce, et des hiéroglyphes sculptés en creux par les meilleurs ouvriers de Memphis ou de Thèbes? Réponds-moi. » Comme tous les dieux et les déesses que l'on invoque, Hathor ne répondit rien. Mais Meyamoun prit un parti désespéré. Cléopâtre, de son côté, invoquait aussi la déesse Hathor. Elle lui demandait un plaisir nouveau, une sensation inconnue. Languissamment couchée sur son lit, elle songeait que le nombre des sens est bien borné, que les plus exquis raffinements laissent bien vite venir le dégoût, et qu'une reine a réellement bien de la peine à occuper sa journée. Essayer des poisons sur des esclaves, faire battre des hommes avec des tigres ou des gladiateurs entre eux, boire des perles fondues, manger une province, tout cela est fade et commun. Charmion était aux expédients et ne savait plus que faire de sa maîtresse. Tout à coup, un sifflement se fit entendre. Une flèche vint se planter en tremblant dans le revêtement de cèdre de la muraille. Cléopâtre faillit s'évanouir de frayeur. Charmion se pencha à la fenêtre et n'aperçut qu'un flocon d'écume sur le fleuve. Un rouleau de papyrus entourait le bois de la flèche. Il contenait ces mots écrits en caractères phonétiques. « Je vous aime. »« Je vous aime, » répéta Cléopâtre, en faisant tourner entre ses doigts frêles et blancs le morceau de papyrus roulé à la façon des citales. « Voilà le mot que je demandais. Quelle âme intelligente, quel génie caché a donc si bien compris mon désir ?» Et tout à fait réveillée de sa langoureuse torpeur, elle sauta à bas de son lit, avec l'agilité d'une chatte qui flaire une souris, mit ses petits pieds d'ivoire dans ses tatbets brodés, jeta une tunique de byssu sur ses épaules, et courut à la fenêtre par laquelle Charmion regardait toujours. La nuit était claire et sereine. La lune déjà levée dessinait avec de grands angles d'ombre et de lumière les masses architecturales du palais, détachées en vigueur sur un fond de bleuâtre transparence et glacées de moire d'argent l'eau du fleuve où son reflet s'allongeait en colonnes étincelantes. Un léger souffle de brise qu'on eût pris pour la respiration des sphinx endormis faisait palpiter les roseaux et frissonner les clochettes d'azur des lotus. Les câbles des embarcations amarrées au bord du Nil gémissaient faiblement, et le flot se peignait sur son visage comme une colombe sans ramier. Un vague parfum de végétation, plus doux que celui des aromates qui brûlent dans Yanchir des prêtres d'Anubis, arrivait jusque dans la chambre. C'était une de ces nuits enchantées de l'Orient, plus splendide que nos plus beaux jours, car le soleil ne vaut pas cette lune. « Ne vois-tu pas là-bas, vers le milieu du fleuve, une tête d'homme qui nage ? Tiens, il traverse maintenant la traînée de lumière et va se perdre dans l'ombre. On ne peut plus le distinguer. » Et, s'appuyant sur l'épaule de Charmion, elle sortait à demi son beau corps de la fenêtre pour tâcher de retrouver la trace du mystérieux nageur. Mais un bois d'acacia du Nil, de Doum et de Sayal, jetait à cet endroit son ombre sur la rivière et protégeait la fuite de l'audacieux. Si Meyamoun eût eu le bon esprit de se retourner, il aurait aperçu Cléopâtre, la reine sidérale, le cherchant avidement des yeux à travers la nuit. Lui, pauvre Égyptien obscur, misérable chasseur de lions. Charmion, Charmion, fais venir Pripévour, le chef des rameurs, et qu'on lance sans retard deux barques à la poursuite de cet homme, dit Cléopâtre, dont la curiosité était excitée au plus haut degré. Pripévour parut. C'était un homme de la race Nahasi, aux mains larges, aux bras musculeux, coiffé d'un bonnet de couleur rouge, assez semblable au casque phrygien, et vêtu d'un caleçon étroit, rayé diagonalement de blanc et de bleu. Son buste entièrement nu reluisait à la clarté de la lampe, noire et polie comme un globe de jet. Il prit les ordres de la reine et se retira sur le champ pour les exécuter. Deux barques longues, étroites, si légères que le moindre oubli d'équilibre les eût fait chavirer, fendirent bientôt l'eau du Nil en sifflant sous l'effort de 20 rameurs vigoureux. Mais la recherche fut inutile. Après avoir battu la rivière en tous sens, après avoir fouillé la moindre touffe de roseaux, Pripévour revint au palais sans autre résultat que d'avoir fait envoler quelques hérons endormis debout sur une patte ou troublé quelques crocodiles dans sa digestion. Cléopâtre éprouva un dépit si vif de cette contrariété qu'elle eut une forte envie de condamner Pripévour à la meule ou aux bêtes. Heureusement, Charmion intercéda pour le malheureux tout tremblant qui pâlissait de frayeur sous sa peau noire. C'était la seule fois de sa vie qu'un de ses désirs n'avait pas été aussitôt accompli que formé. Aussi éprouvait-elle une surprise inquiète, comme un premier doute sur sa toute-puissance. Elle, Cléopâtre, femme et sœur de Ptolémée, proclamée déesse et vergette, reine vivante des régions d'en bas et d'en haut, œil de lumière, préférée du soleil, comme on peut le voir dans les cartouches sculptées sur les murailles des temples, rencontrait un obstacle. Vouloir une chose qui ne s'est pas faite, avoir parlé et n'avoir pas été obéi. Autant vaudrait être la femme de quelque pauvre parachite, inciseur de cadavre, et faire fondre du natron dans une chaudière. C'est monstrueux, c'est exorbitant, et il faut être en vérité une reine très douce et très clémente pour ne pas faire mettre en croix ce misérable Pripévour. Vous vouliez une aventure, quelque chose d'étrange et d'inattendu? Vous êtes servi à souhait. Vous voyez que votre royaume n'est pas si mort que vous le prétendiez. Ce n'est pas le bras de pierre d'une statue qui a lancé cette flèche. Ce n'est pas du cœur d'une momie que viennent ces trois mots qui vous ont émus. Vous qui voyez avec un sourire se lèvent vos esclaves empoisonnés battre du talon et de la tête dans des convulsions de l'agonie. Vos beaux yeux pavés de mosaïques et de porphyre, vous qui applaudissez le tigre lorsqu'il a bravement enfoncé son mufle dans le flanc du gladiateur vaincu. Vous aurez tout ce que vous voudrez, des chars d'argent et toiles d'émeraude, des quadriges de griffons, des tuniques de pourpre teintes trois fois, des miroirs d'acier fondu entourés de pierres précieuses, si claires que vous y verrez aussi belle que vous l'êtes, des robes venues du pays de Séric, si fines, si déliées qu'elles passeraient par l'anneau de votre petit doigt, des perles d'un orient parfait, des coupes de lisip ou de miron, des perroquets de l'Inde, ils parlent comme des poètes. Vous obtiendrez tout, quand même vous demanderiez le cesse de Vénus ou le pchan d'Isis. Mais, en vérité, vous n'aurez pas ce soir l'homme qui a lancé cette flèche qui tremble encore dans le bois de cèdre de votre lit. Les esclaves qui vous habilleront demain n'auront pas beau jeu. Elles ne risquent rien d'avoir la main légère. Les épingles d'or de la toilette pourraient bien avoir pour pelote la gorge de la friseuse maladroite, et l'épileuse risque fort de se faire pendre au plafond par les pieds. Qui peut avoir eu l'audace de lancer cette déclaration emmanchée dans une flèche? Est-ce le monarque Amun-Ra qui se croit plus beau que l'Apollon des Grecs? Qu'en penses-tu, Charmion? Ou bien Capsiro, le commandant de l'Hermotibi, si fier de ses combats au pays des couches? Ne serait-ce pas plutôt le jeune Sextus, ce débauché romain, qui met du rouge, grasseille en parlant, et porte des manches à la persique? Reine, ce n'est aucun de ceux-là. Quoique vous soyez la plus belle du monde, ces gens-là vous flattent et ne vous aiment pas. Le monarque d'Amun-Ra s'est choisi une idole à qui il sera toujours fidèle, et c'est sa propre personne. Le guerrier Capsiro ne pense qu'à raconter ses batailles. Quant à Sextus, il est si sérieusement occupé de la composition d'un nouveau cosmétique qu'il ne peut songer à rien d'autre chose. D'ailleurs, il a reçu surtout de l'aconie, des tuniques jaunes brochées d'or et des enfants asiatiques qu'il absorbe tout entier. Aucun de ces beaux seigneurs ne risquerait son coup dans une entreprise si hardie et si périlleuse. Il ne vous aime pas assez pour cela. Vous disiez hier dans votre cange que les yeux éblouis n'osaient s'élever jusqu'à vous, et que l'on ne savait que pâlir et tomber à vos pieds en demandant grâce, et qu'il ne vous restait d'autre ressource que d'aller réveiller dans son cercueil doré quelques vieux pharaons parfumés au bitume. Il y a maintenant un cœur ardent et jeune qui vous aime. Qu'en ferez-vous? Cette nuit-là, Cléopâtre eut de la peine à s'endormir. Elle se retourna dans son lit. Elle appela longtemps en vain Morphée, frère de la mort. Elle répéta plusieurs fois qu'elle était la plus malheureuse des reines, que l'on prenait à tâche de la contrarier, que la vie lui était insupportable. Grande doléance qui touchait assez peu Charmion, quoiqu'elle fît mine d'y compatir. Laissons un peu Cléopâtre chercher le sommeil qui la fuit et promener ses conjectures sur tous les grands de la cour. Revenons à Meiamoun. Plus adroit que Préipefbour, le chef des rameurs, nous parviendrons bien à le trouver. Effrayé de sa propre hardiesse, Meiamoun s'était jeté dans le Nil et avait gagné à la nage le petit bois de palmiers d'Oum avant que Préipefbour eût lancé les deux barques à sa poursuite. Lorsqu'il eut repris haleine et repoussé derrière ses oreilles ses longs cheveux noirs, trempé de l'écume du fleuve, il se sentit plus à l'aise et plus calme. Cléopâtre avait quelque chose qui venait de lui. Un rapport existait entre eux maintenant. Cléopâtre pensait à lui, Meiamoun. Peut-être était-ce une pensée de courroux, mais au moins, il était parvenu à faire naître en elle un mouvement quelconque, frayeur, colère ou pitié. Il lui avait fait sentir son existence. Il est vrai qu'il avait oublié de mettre son nom sur la bande de papyrus. Mais qu'eût appris de plus à la reine, Meiamoun, fils de Mandouchploch, un monarque ou un esclave sont égaux devant elle. Une déesse ne s'abaisse pas plus en prenant pour amoureux un homme du peuple qu'un patricien ou un roi. De si haut où l'on ne voit dans un homme que l'amour. Le mot qui lui pesait sur la poitrine, comme le genou d'un colosse de bronze, en était enfin sorti. Il allait traverser les airs, il était parvenu jusqu'à la reine, pointe du triangle, sommet inaccessible. Dans ce cœur blasé, il avait mis une curiosité, progrès immense. Meiamoun ne se doutait pas d'avoir si bien réussi, mais il était plus tranquille, car il s'était juré à lui-même, par la barie mystique qui conduit les âmes dans la mantie, par les oiseaux sacrés, Bennu et Gegen, par Typhon et par Osiris, par tout ce que la mythologie égyptienne peut offrir de formidable, qu'il serait l'amant de Cléopâtre, ne fût-ce qu'un jour, ne fût-ce qu'une nuit, ne fût-ce qu'une heure, dût-il lui en coûter son corps et son âme. Expliquer comment lui était venu cet amour pour une femme qu'il n'avait vue que de loin et sur laquelle il osait à peine lever ses yeux, lui qui ne les baissait pas devant les jaunes prunelles des lions, et comment cette petite graine tombée par hasard dans son âme y avait poussé si vite et jeté de si profondes racines. C'est un mystère que nous n'expliquerons pas. Nous avons dit là-haut, l'abîme l'appelait. Quand il fut bien sûr que Préipefbour était rentré avec les rameurs, il se jeta une seconde fois dans le Nil et se dirigea de nouveau vers le palais de Cléopâtre, dont la lampe brillait à travers un rideau de pourpre et semblait une étoile fardée. Léandre ne nageait pas vers la tour de Sestos avec plus de courage et de vigueur, et cependant, Meiamoun n'était pas attendu par une aéro prête à lui verser sur la tête des fioles de parfum pour chasser l'odeur de la mer et des âcres baisers de la tempête. Quelques bons coups de lance ou de harpe étaient tout ce qui pouvait lui arriver de mieux, et à vrai dire, ce n'était guère de cela qu'il avait peur. Il longea quelque temps la muraille du palais dont les pieds de marbre baignaient dans le fleuve et s'arrêta devant une ouverture submergée par où l'eau s'engouffrait en tourbillonnant. Il plongea deux ou trois fois sans succès. Enfin, il fut plus heureux, rencontra le passage et disparut. Cette arcade était un canal voûté qui conduisait l'eau du Nil au bain de Cléopâtre. Cléopâtre ne s'endormit que le matin, à l'heure où rendre les songes envolés par la porte d'ivoire. L'illusion du sommeil lui fit voir toutes sortes d'amants, se jetant à la nage, escaladant les murs, pour arriver jusqu'à elle. Et, souvenir de la veille, ses rêves étaient criblés de flèches chargées de déclarations amoureuses. Ses petits talons agités de tressaillements nerveux frappaient la poitrine de Charmion, couché en travers du lit, pour lui servir de coussin. Lorsqu'elle s'éveilla, un guérillon jouait dans le rideau de la fenêtre, dont il trouvait la trame de mille points lumineux, et venait familièrement jusque sur le lit, voltiger comme un papillon d'or autour de ses belles épaules qu'il effleurait en passant d'un baiser lumineux. Heureux rayon que les dieux eussent envié. Cléopâtre demanda à se lever d'une voix mourante, comme un enfant malade. Deux de ses femmes l'enlevèrent dans leurs bras et la posèrent précieusement à terre sur une grande peau de tigre dont les ongles étaient d'or et les yeux d'escarboucle. Charmion l'enveloppa d'une calasiris, de lin plus blanche que le lait, lui entoura les cheveux d'une résille de fil d'argent et lui plaça les pieds dans des tas de bêbes de liège, sur la semelle desquelles, en signe de mépris, l'on avait dessiné deux figures grotesques représentant deux hommes des races Nahasi et Nahamu, les mains et les pieds liés, en sorte que Cléopâtre méritait littéralement l'épithète de conculcatrice des peuples que lui donnent les cartouches royaux. C'était l'heure du bain. Cléopâtre s'y rendit avec ses femmes. Les bains de Cléopâtre étaient bâtis dans de vastes jardins, remplis de mimosas, de caroubiers, d'aloès, de citronniers, de pommiers persiques, dont la fraîcheur luxuriante faisait un délicieux contraste avec l'aridité des environs. D'immenses terrasses soutenaient des massifs de verdure et faisaient monter les fleurs jusqu'au ciel par de gigantesques escaliers de granit rosé. Des vases de marbre pentéliques s'épanouissaient comme de grands lys au bord de chaque rampe, et les plantes qu'ils contenaient ne semblaient que leurs pistils, des chimères caressées par le ciseau des plus habiles sculpteurs grecs, et d'une physionomie moins rébarbative que les sphinx égyptiens, avec leurs mines renfrognées et leur attitude morose, étaient couchés mollement sur le gazon, tout piqués de fleurs, comme de sveltes levrettes blanches sur un tapis de salon. C'étaient de charmantes figures de femmes, le nez droit, le front uni, la bouche petite, les bras délicatement potelés, la gorge ronde et pure, avec des boucles d'oreilles, des colliers et des ajustements d'un caprice adorable, se bifurquant en queue de poisson, comme la femme dont parle Horace, se déployant en ailes d'oiseau, s'arrondissant en croupe de lionne, se contournant en volutes de feuillage, selon la fantaisie de l'artiste ou les convenances de la position architecturale. Une double rangée de ces délicieux monstres bordait l'allée qui conduisait du palais à la salle. Au bout de cette allée, on trouvait un large bassin avec quatre escaliers de porphyre. À travers la transparence de l'eau diamantée, on voyait les marches descendre jusqu'au fond sablé de poudre d'or. Des femmes terminées en gaines comme des cariatides faisaient jaillir de leurs mamelles un filet d'eau parfumée qui retombait dans le bassin rosé d'argent et en picotait la claire miroir de ses gouttelettes grésillantes. Outre cet emploi, ces cariatides avaient encore celui de porter sur leur tête un entablement orné de néréides et de tritons en bas-relief et muni d'anneaux de bronze pour attacher les cordes de soie du vélarium. Au-delà du portique, on apercevait des verdures humides et bleuâtres, des fraîcheurs ombrageuses, un morceau de la vallée de Tempe transporté en Égypte. Les fameux jardins de Sémiramis n'étaient rien auprès de cela. Nous te parlerons plus de sept ou huit autres salles de différentes températures, avec leurs vapeurs chaudes ou froides, leurs boîtes de parfums, leurs cosmétiques, leurs huiles, leurs pierres ponces, leurs gantelets de crin et tous les raffinements de l'art balnéatoire antique poussés à un si haut degré de volupté et de raffinement. Cléopâtre arriva, la main sur l'épaule de Charmion.
Elle avait fait au moins 30 pas toute seule. Grand effort. Fatigue énorme.
Un léger nuage rosé se répandait sous la peau transparente de ses joues. On rafraîchissait la pâleur passionnée. Ses tempes blondes comme l'ambre laissaient voir un réseau de veines bleues. Son front uni, peu élevé, comme les fronts antiques, mais d'une rondeur et d'une forme parfaite, s'unissait par une ligne irréprochable à un nez sévère et droit, en façon de camée, coupé de narines rosées et palpitantes à la moindre émotion, comme les naseaux d'une tigresse amoureuse. La bouche petite, ronde, très rapprochée du nez, avait la lèvre dédaigneusement arquée, mais une volupté effrénée, une ardeur de vie incroyable, rayonnait dans le rouge éclat et dans le lustre humide de la lèvre inférieure. Ses yeux avaient des paupières étroites, des sourcils minces et presque sans inflexion. Nous n'essaierons pas d'en donner une idée. C'était un feu, une langueur, une limpidité étincelante à faire tourner la tête du chien d'Anubis lui-même. Chaque regard de ses yeux était un poème supérieur à ceux d'Homère ou de Mimerme. Un menton impérial, plein de force et de domination, terminait dignement ce charmant profil. Elle se tenait debout sur la première marche du bassin, dans une attitude pleine de grâce et de fierté. Légèrement cambrée en arrière, le pied suspendu comme une déesse qui va quitter son piédestal et dont le regard est encore au ciel. Deux plis superbes partaient des pointes de sa gorge et filaient d'un seul jet jusqu'à terre. Cléomène, s'il eût été son contemporain, et s'il eût pu la voir, aurait brisé sa Vénus de dépit. Avant d'entrer dans l'eau, par un nouveau caprice, elle dit à Charmion de lui changer sa coiffure à rayis d'argent. Elle aimait mieux une couronne de fleurs de lotus avec des joncs, comme une divinité marine. Charmion obéit. Ses cheveux délivrés coulèrent en cascades noires sur ses épaules et pendirent en grappes comme des raisins mûrs au long de ses belles joues. Puis la tunique de lin, retenue seulement par une agrafe d'or, se détacha, glissa au long de son corps de marbre et s'abattit en blanc nuage à ses pieds, comme le cygne au pied de l'Éda. Et Meiamoun, où était-il? Ô cruauté du sort, tant d'objets insensibles jouissent de faveurs qui raviraient un amant de joie. Le vent qui joue avec une chevelure parfumée ou qui donne à de belles lèvres des baisers qu'il ne peut apprécier. L'eau à qui cette volupté est bien indifférente et qui enveloppe d'une seule caresse un beau corps adoré. Le miroir qui réfléchit tant d'images charmantes. Le cothurne ou le tête-bèbe qui enferme un divin petit pied. Oh, que de bonheur perdu! Cléopâtre trempa dans l'eau son talon vermeil et descendit quelques marches. L'onde frissonnante lui faisait une ceinture et des bracelets d'argent et roulait en perles sur sa poitrine et ses épaules comme un collier des fées. Ses grands cheveux, soulevés par l'eau, s'étendaient derrière elle comme un manteau royal. Elle était reine même au bain. Elle allait, venait, plongeait et rapportait du fond dans ses mains des poignées de poudre d'or qu'elle lançait en riant à quelqu'une de ses femmes. Autrefois, elle se suspendait à la balustrade du bassin, cachant et découvrant ses trésors, tantôt ne laissant voir que son dos poli et lustré, tantôt se montrant entière comme la Vénus anadiomène et variant sans cesse les aspects de sa beauté. Tout à coup, elle poussa un cri plus aigu que Diane surprise par Actéon. Elle avait vu, à travers le feuillage, luire une prunelle ardente, jaune et phosphorique, comme un œil de crocodile ou de lion. C'était Meiamoun qui, tapis contre terre derrière une touffe de feuilles, plus palpitant qu'un faon dans les blés, s'enivrait du dangereux bonheur de regarder la reine dans son bain. Quoiqu'il fût courageux jusqu'à la témérité, le cri de Cléopâtre lui entra dans le cœur, plus froid qu'une lame d'épée. Une sueur mortelle lui couvrit tout le corps. Ses artères sifflaient dans ses tempes avec un bruit strident. La main de fer de l'anxiété lui serrait la gorge et l'étouffait. Les eunuques accoururent la lance au poing. Cléopâtre leur désigna le groupe d'arbres où ils trouvèrent Meiamoun blotti et pelotonné. La défense n'était pas possible. Il ne l'essaya pas et se laissa prendre. Il s'apprêtait à le tuer avec l'impassibilité cruelle et stupide qui caractérise les eunuques. Mais Cléopâtre, qui avait eu le temps de s'envelopper de sa calasiris, leur fit signe de la main de s'arrêter
et de lui amener le prisonnier. Mais Yamoun ne put que tomber à ses genoux en tendant vers elle des mains suppliantes, comme vers l'autel des dieux.
Es-tu quelque assassin engagé par Rome? Et que venais-tu faire dans ces lieux sacrés d'où les hommes sont bannis?
Dit Cléopâtre, avec un geste d'interrogation impérieuse.
Que mon âme soit trouvée légère dans la balance de la mentie, et que Tmei, fille du soleil et déesse de la vérité, me punisse si jamais j'eus contre vous, ô reine, une intention mauvaise,
répondit Meyamoun, toujours à genoux. La sincérité et la loyauté brillaient sur sa figure, en caractère si transparent, que Cléopâtre abandonna sur le champ cette pensée, et fixa sur le jeune Égyptien des regards moins sévères et moins irrités. Elle le trouvait beau.
« Alors, quelle raison te poussait dans un lieu où tu ne pouvais rencontrer que la mort ?»«
Je vous aime, » dit Meyamoun d'une voix basse mais distincte, car son courage était revenu, comme dans toutes les situations extrêmes, et que rien ne peut empirer.
Ah, fit Cléopâtre en se penchant vers lui et en lui saisissant le bras avec un mouvement brusque et soudain.
C'est toi qui as lancé la flèche avec le rouleau de papyrus.
Par Homs, chien des enfers, tu es un misérable bien hardi.
Je te reconnais maintenant. Il y a longtemps que je te vois errer comme une ombre plaintive autour des lieux que j'habite. Tu étais à la procession d'Isis, à la panégyrie d'Hermontis, tu as suivi la cange royale. Ah, il te faut une reine. Tu n'as point des ambitions médiocres.
Tu t'attendais sans doute à être payé de retour.
Assurément.
Je vais t'aimer.
Pourquoi pas?
Reine, répondit Meyamoun avec un air de grave mélancolie, ne raillez pas. Je suis insensé, c'est vrai. J'ai mérité la mort, c'est vrai encore.
Soyez humaine, faites-moi tuer.
Non, j'ai le caprice d'être clémente aujourd'hui. Je t'accorde la vie.
Que voulez-vous que je fasse de la vie? Je vous aime.
« Eh bien, tu seras satisfait, tu mourras, » répondit Cléopâtre.
« Tu as fait un rêve étrange, extravagant.
Tes désirs ont dépassé en imagination un seuil infranchissable. Tu pensais que tu étais César ou Marc-Antoine. Tu aimais la reine. À certaines heures de délire, tu as pu croire qu'à la suite de circonstances, qui n'arrivent qu'une fois tous les 1000 ans, Cléopâtre un jour t'aimerait. » Eh bien, ce que tu croyais impossible va s'accomplir. Je vais faire une réalité de ton rêve.
Cela me plaît, une fois, de combler une espérance folle.
Je veux t'inonder de splendeur, de rayons et d'éclairs. Je veux que ta fortune ait des éblouissements.
Tu étais en bas de la roue. Je vais te mettre en haut, brusquement, subitement, sans transition. Je te prends dans le néant. Je fais de toi l'égal d'un dieu et je te replonge dans le néant.
C'est tout. Mais ne viens pas m'appeler cruel, implorer ma pitié. Ne va pas faiblir quand l'heure arrivera. Je suis bonne, je me prête à ta folie. J'aurai le droit de te faire tuer sur le champ. Mais tu me dis que tu m'aimes. Je te ferai tuer demain. Ta vie pour une nuit. Je suis généreuse, je te l'achète. Je pourrai la prendre.
Mais que fais-tu à mes pieds? Relève-toi et donne-moi la main pour entrer au palais.